On va parler avec notre ami Marc Griffin. Salut Marc.
Salut Danny.
Marc, très décevant évidemment ce qui s'est passé dans le baseball. Moi, j'en reviens pas encore que des hommes, des hommes, surtout avec tout ce qu'on vit, là, réussissent pas à s'entendre pour plusieurs raisons. Premièrement, écoute, leur clientèle vit des choses quand même assez difficiles au niveau économique. Tu as également, moi j'ai vu un sondage la semaine passée qui en dit long là, sur la progression des sports. La MLS s'en vient à vitesse grand V dans la popularité des sports aux États-Unis. Le baseball a un membership à 57 ans. Le baseball a tout simplement pas les moyens d'aller en conflit de travail. Moi, je pensais qu'à un moment donné, Tony Clark et Rob Manfred allaient s'asseoir comme de grandes personnes, allaient mettre leur ego de côté, mais de toute évidence, c'est pas ça qui est arrivé.
Non, puis non seulement c'est pas ça qui est arrivé, mais tu as raison de mentionner le fait que là, le baseball a pas besoin de ça, au contraire. Puis je te disais qu'à la limite, c'est même pas les vrais problèmes qu'on est en train de régler. Il n'y a pas de problème d'argent dans le
Non.
baseball, là. C'est pas que d'un côté on en arrache, là. C'est juste la façon dont on partage cet argent-là. Et pourtant, pendant ce temps-là, le produit sur le terrain, et là, je parle pas de la qualité des joueurs, là, tu sais, je parle. Des matchs de 3h30, il y a des affaires qu'il faut régler. On n'a pas le choix de s'ajuster à 2022. Tu sais, les jeunes aujourd'hui, là, ils regardent pas un match au complet. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils regardent les faits saillants, ils voient les Tatis Junior faire des jeux incroyables ou Vlad Guerrero frapper des coups de circuit à des distances folles, mais tu sais, à un moment donné, c'est que il faut s'attaquer bien plus sur ce qui se passe sur le terrain pour ton sport, parce que tantôt, là, il y en aurait peut-être pas mal moins d'argent là, là-dedans, parce que là, comme tu sais, tu as parlé de la MLS. Fait que je trouve vraiment là que on est tellement centré sur nous-mêmes au lieu de regarder l'ensemble du problème, l'ensemble de l'industrie. Puis t'as raison, ça n'a aucun espèce de sens présentement qu'on n'ait pas une entente quelconque. On savait que ça allait être des négociations difficiles, mais tu mets les joueurs en lock-out au mois de décembre, c'est sûr que ça donne pas bonne bouche pour la suite des négociations.
Non,
Donc, il y a eu un paquet d'erreurs là-dedans. T'sais, les joueurs sont pas blancs comme neige non plus. T'sais, Juan Soto a quand même refusé un contrat de 350 millions avant le lock-out. C'est ça, là. T'sais, je veux dire, il faut trouver un terrain d'entente parce que plus les semaines vont passer, là. Déjà que tu as perdu un paquet de partisans, tu regardes ça sur les réseaux sociaux, les gens qui décrochent. Moi, je trouve que l'impact, tu sais, les gens disent, ouais, mais là, il faut corriger les problèmes financiers. Honnêtement, là, je pense que les problèmes à la suite de ce conflit-là vont être davantage, donc pire que si on règle les affaires. T'sais, alors, c'est. Moi, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment que. Puis je comprends pas, honnêtement, là, qu'on s'assoit pas tous les jours en ce moment. Je dis pas 24 heures sur 24, mais tous les jours, en train de trouver à essayer de trouver une solution. Là, on a eu une rencontre hier, puis après ça, on attend de voir c'est quoi la suite des choses. C'est vraiment triste ce
Mais
qui se
c'est
passe.
pas surprenant ce qui s'est passé. Marc, rappelle-toi, tu l'avais dit, moi je me rappelle en 2020, rappelle-toi au lockout, quand les gens étaient revenus de la COVID, le baseball a commencé 3 semaines en retard. Ça aurait dû commencer en début juillet au lieu de finir à fin juillet, puis ça bretait, puis ça bretait. Puis tu l'avais dit toi-même, Marc, je m'attends à des affaires, je me rappelle très bien, j'écoute tous tes podcasts, puis tu l'avais dit toi-même. Donc y a rien de surprenant là-dedans, là.
Non, non, mais c'est pour ça que j'ai parlé tantôt de mettre les joueurs en lock-out. Déjà qu'il y avait une animosité entre les deux groupes, déjà on sent que c'est pas super la synergie entre les deux groupes. On peut-tu se donner les meilleures chances possibles au départ? Puis est-ce que le fait que c'est encore Rob Manfred, est-ce que c'est encore Tony Clark, est-ce qu'il faut avoir un changement à ce niveau-là éventuellement? Je ne sais pas, mais il faut quelqu'un quelque part. Et la chose qu'il faut donner quand même aux propriétaires, c'est que deux fois, on a demandé à un médiateur. Et à chaque fois, l'association des joueurs a refusé. Donc, tu sais, je comprends que le médiateur, là, c'est pas parfait dans la négociation, mais à quelque part, si on demande à un médiateur, c'est qu'on va peut-être faire avancer les choses. Puis là, l'association des joueurs qui dit non. Donc, c'est pour ça que je dis que l'association des joueurs n'est pas blanc comme neige dans tout ça, là. Tu sais, je suis pas prêt à mettre tout le blanc du côté de Manfred et des propriétaires. Mais en même temps, ben, ça prend deux personnes pour danser, là, puis en ce
Ben
moment,
ouais.
ben, On est chacun dans notre coin.
Tu parlais d'argent, puis ainsi de suite. Moi, il y a quelque chose qui est. C'est pas la première fois qu'on en parle, Marc, les deux. C'est l'argent qu'on verse aux joueurs des ligues mineures. Là. T'sais, ça ne semble pas être nécessairement dans le portrait également de régler une fois pour toutes pour ça. Puis pourtant, c'est des peanuts. C'est pas normal qu'un joueur dans les ligues mineures soit pas capable au moins d'avoir, je dis pas de vivre riche, là, mais de se payer un loyer. Là, cette année, ça va changer. Les joueurs, les équipes vont améliorer, vont payer les loyers, mais quand même. Mais tu sais, d'avoir une vie de décente, ça aussi, ça s'en
Oui,
va.
mais.
Ouais.
Ben, puis en plus,
Ça
c'est que
coûte pas cher
là,
régler le
on offre.
problème, là. Ça coûterait pas cher.
Non, mais
Ouais.
c'est sûr que ça coûte si tu le dis, ça coûte rien. Sur une industrie comme le baseball, ça coûte rien. Tu sais, 1 million ou 2 millions de dollars sur tout l'argent dépensé, c'est des pilotes. Puis surtout que si on parle de ton avenir, là, on parle de tes joueurs qui vont venir tantôt t'aider au niveau des ligues majeures. Et là, oui, on propose de payer le loyer, mais aussi on voulait se débarrasser d'encore de 30 autres équipes, là. On voulait se débarrasser d'une autre équipe de ligue mineure pour chacune des équipes. On l'a déjà fait, tu sais, il y a déjà 57 villes. C'est quoi exactement le nombre de villes qui ont perdu leur affiliation? Puis là, on veut continuer. Je comprends que le baseball veut se rapprocher un petit peu plus de la NBA puis de la NFL en disant, on a trop d'équipes de ligue mineure. Je pense qu'ils ont raison à ce niveau-là. Mais ça reste que pour le prix que ça coûte, d'étendre ton produit dans toutes les petites villes américaines, dire que tu es une filiale des Reds ou des Angels ou des Pirates, tu sais, ça a une valeur. C'est ton produit que tu contrôles à travers les ligues mineures. C'est extraordinaire pour un prix qui est vraiment minime. Mais on veut quand même enlever ça, excuse-moi l'expression, mais garrocher ça dans les mains d'équipes indépendantes et dire, ben, les joueurs, ils vont se trouver, les ligues indépendantes vont l'organiser. Fait que, tu sais, je trouve que, je sais pas, je trouve que cette vague de propriétaires-là est très centrée sur elle-même et pas une belle vision de l'avenir du baseball, selon moi.
Est-ce que les deux ça arrive avec mon prochain sujet, vont être capables de rester à la tête, Rob Manfred, le commissaire, et Tony Clark comme président de l'association des joueurs, si ça se règle pas vite?
Ben, écoute, ça va dépendre de bien des choses, mais il y a même des politiciens importants aux États-Unis qui ont écrit sur Twitter là, de dire, écoutez, là, M. Manfred, ça n'a pas de bon sens là, ce qui arrive. Il faut bouger. Bon, encore une fois, ça prend deux parties pour en venir à une entente. Chose certaine, si ce conflit-là perdure, il faut qu'il y ait des têtes qui sautent, là, parce que là, on est en train de nuire. Tu vois tous les joueurs qui se prononcent, là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux en 94 lorsqu'il y a eu la grève. On ne connaissait pas la vie nécessairement de tous les joueurs là. Tout ça est assez facile de trouver. Fait que, tu sais, en tout cas, chose certaine, ça peut pas durer de même parce que, comme je l'ai dit, les dommages vont être énormes par la suite.
Avant de parler de mon prochain sujet, j'aimerais te parler de tu en regardes des matchs. Je t'ai entendu l'autre fois justement dire que tu regardes des anciens matchs à l'NBA Network actuellement. Il y a plusieurs matchs à l'NBA Network dans des anciens matchs des années 80-90. Puis ça durait, me semble de mémoire, ça durait pas 3 h 30, 4 h tout le temps. Puis pourtant, il y avait plus de buts volés. Il y avait plus de. Donc, qui dit plus de buts volés dit plus de lancers au premier but. Donc, c'est de quoi retarder le match. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en vienne là?
Ah, écoute, ben, tu sais, je veux dire, la télévision a fait en sorte qu'à un moment donné, il y a eu des pauses. Tu sais, avant, tu avais des pauses de 2 minutes, là, c'était rendu des pauses de 3 minutes. Là, ben, le joueur qui se voit à la télé, qui se voit à la télé, évidemment, il ne se voit pas en direct, mais quand il se voit le soir, puis il voit qu'il se prépare, puis, tu sais, il y a des images. Je sais pas si c'est juste ça, mais écoute, j'ai écouté une séquence d'un match de Série mondiale de 83, là. 83 entre les Phillies puis les Orioles. Puis je veux dire, écoute, c'était un maximum de 10-11 secondes entre les lancers. Là, on parle d'une Série mondiale. On parle évidemment, là, qu'il faut que je sache exactement quoi je lance, puis il faut que le frappeur se dise, OK, qu'est-ce qui va. Tu sais, il y a comme. C'est évident que ce temps-là, il sert à une certaine préparation, mais c'est pas 20, c'est pas 25, c'est pas 30, c'est pas 40 secondes. C'est pas en train d'ajouter tes gants de frappeur, c'est pas en train de te frotter la balle tout le temps. Fait que je sais pas où ça s'est perdu. Tu sais, longtemps, j'ai pensé, moi, que dans le baseball, lorsqu'on grandissait, on disait souvent au lanceur, prends ton temps. Prends ton temps, tu sais, prends un grand respect, prends ton temps. Mais je ne sais pas si à un moment donné, on l'a juste appliqué, là, mais chose certaine, ça, c'est un aspect hyper, hyper important. D'ailleurs, les aspects hyper importants, là, c'est de régler, selon moi, le temps entre les lancers. Donc, d'avoir un cadran. Puis, tu sais, on en reparlera une autre fois, mais moi, je trouve que d'augmenter le nombre d'équipes en série, c'est parfait, puis en mettre un peu plus. Parce que dans le fond, c'est quoi qu'on veut? On veut voir les meilleurs en série. Tu sais, c'est pas normal que Mike Trout, qui est le meilleur joueur de sa génération, qui est le meilleur joueur probablement parmi tu sais, les 100 dernières années, parmi certainement les 10 meilleurs joueurs, puis on l'a vu une fois en série. Puis c'était un 2-3, là, ou un 3-5. Alors, tu sais, moi, plus d'équipes en série veut dire ben, plus de chances de voir Vlad Guerrero Jr. en série, puis de voir Fernando Tatis en série, puis de voir ces gars-là en série. Puis c'est ça qu'on veut, puis c'est ça qui va attirer aussi une certaine clientèle, puis plus d'équipes vont aussi donner plus d'espoir à certaines organisations qui, écoute, on va se le dire, là, dès le mois de juin, t'as l'impression que t'es plus dans la course, mais là, c'est une séquence de, je sais pas, 10 victoires en 15 matchs, tu te retrouves de retour à 500, ben t'as peut-être une chance de faire les séries, ben ça donne l'espoir aux joueurs et aux partisans.
Ouais. Derek Jeter comme commissaire, moi j'ai aimé ton idée, j'ai trouvé ça bon, moi. Pour les gens qui ne savent pas, Derek Jeter a démissionné des Marlins de la Floride cette semaine. Ça semble être une divergence d'opinion. Derek Jeter,
c'est... Et c'est inclus ses parts en passant, hein, parce que les gens, ça, il a tout été vendu, il est sorti de là. Là. Il n'y a plus aucune association avec les Marlins.
OK. Donc, c'est Monsieur Yankees, mais avant tout, c'est un gars qui a une réputation incroyable. Là, c'est un peu comme Wayne Gretzky au hockey. Moi, je déteste pas ça du tout, moi.
Ben, l'idée m'est venue, bon, tu regardes ce qui se passe avec le commissaire.
Ouais.
Jeter a quand même l'expérience parce qu'il était copropriétaire, donc il a quand même l'expérience d'être à côté de la situation. Il était pendant presque 5 ans. On connaît sa réputation au niveau des joueurs. Je me dis, est-ce qu'il est temps d'avoir un commissaire qui est sans dire qu'il est du côté des joueurs, mais qui. Parce qu'un commissaire est nommé par les propriétaires, mais tu sais, un joueur qui. Selon moi, qui serait capable d'amener le baseball à un autre niveau, d'amener les relations de travail à un autre niveau, de faire comprendre les choses d'un côté comme de l'autre, mais tu sais, de mettre l'emphase sur le partisan. Parce que venez pas me dire, là, l'association des joueurs, puis le commissaire qui dit le partisan est la priorité numéro un. Écoutez, boy, ça marche pas de même. S'il y a une grève ou s'il y a un lockout, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas le partisan qui est à la priorité numéro un. Fait que, mais ça donnerait une belle vitrine, une belle vie, une belle dynamique au baseball d'avoir un gars comme ça qui. Parce que tu sais, oui, le commissaire est là pour les propriétaires, mais techniquement, le commissaire est là pour le bien du baseball, pour l'intégrité du baseball. Puis honnêtement, là, on va se le dire, là, depuis quelques années, c'est pas tout à fait ça qu'on voit là.
Effectivement. Marc, tu en as parlé dans ton dernier podcast, mais moi, c'est un mystère pour moi. Là. Évidemment que le baseball de la LMB qui est actuellement sur pause, il y a de la NCAA, le baseball de la NCAA, ça laisse la place au baseball de la NCAA. D'ailleurs, MB Network présente 9 matchs en fin de semaine de la NCAA baseball. Et j'ai posé la question, parce que moi, je me suis inscrit à un groupe, pas plus tard qu'hier, d'un groupe de fans, américain, puis il y a des anciens joueurs de baseball qui interrogent. Marc, je vais te l'envoyer, le groupe, tu t'inscriras, c'est vraiment le fun. Puis j'ai carrément posé la question aux Américains, parce que les autres sont là-dedans. Là. Pourquoi la NCAA baseball est moins populaire aux États-Unis que la NCAA football et le college basketball? Et j'ai eu des réponses qui très intéressantes et très intelligentes, puis je veux avoir ton point de vue là-dessus, sur les réponses que les Américains m'ont données. La première, évidemment, que moi je trouve la plus sensée, c'est que les joueurs dans la NCAA, basketball et football, arrivent directement à la NFL et dans la NBA. Tu sais, Joe Burrow, Jamar Chase, on les connaît, on les voit arriver, on les a vus arriver à LSU, l'année suivante, ils sont avec les Bengals. Ça, c'est très logique comme explication. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ben, non seulement je suis tout à fait d'accord avec ça, mais un des problèmes de l'exode des joueurs noirs, en fait, les athlètes extraordinaires, c'était ça. C'est que souvent, ces athlètes-là sont aussi bons au football, au basketball, au baseball. Mais là, ils se disent, écoute, est-ce que je vais me taper 3... Puis à l'époque, c'était peut-être 4 ans de ligue mineure dans les autobus à faire un salaire épouvantablement bas, ou je m'en vais directement dans la NFL ou dans la NBA. écoute, la question ne se posait même pas. Et en fait, et c'est pour ça tantôt que je te disais rapidement que les équipes veulent enlever au moins une équipe de ligue mineure, parce que là, il faut se le dire, les programmes de collège baseball sont pas mal meilleurs qu'ils étaient. Ouais. Et là, le gars qui arrive, là, passe plus 3-4 ans dans les ligues mineures. C'est un an et demi. Fait qu'on a rétréci ça, mais on a encore, pour la majorité, un passage dans les ligues mineures.
Deuxième point que j'ai trouvé très logique et très intéressant de la part des Américains, les meilleurs joueurs ne sont pas nécessairement dans la NCAA Baseball. Il fait l'exemple des Dominicains et également des Japonais. C'est pas bête non plus comme idée. Là.
Ben, c'est sûr que là, on est rendu à quand même un très, très haut niveau de joueurs latinos, dominicains, exactement. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça, juste en parenthèse, que le baseball veut un repêchage international. Ouais, là, qu'on commence à étendre ça un peu pour que là, on puisse repêcher. Bon, parce que là, on connaît la suite des choses là-dessus. Là, mais oui, effectivement, il y a un gros marché extérieur des États-Unis qui font que les joueurs de baseball arrivent un peu partout. Tu fais bien de mentionner que l'Asie devient de plus en plus un attrait intéressant. Donc, c'est évident. Mais ça reste que le baseball de NCAA est, selon moi, supérieur à ce qu'il était en raison de la qualité des enseignants, oui, donc des coachs, des programmes. Il commence à avoir une certaine visibilité qui est un peu plus intéressante, mais on est très, 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 très loin, comme tu l'as dit, du football et du basketball.
Le bâton d'aluminium aussi est revenu.
Oui, ça, honnêtement, là, ça, je comprends pas. Je comprends pas qu'on est encore avec un bâton d'aluminium. Écoute, même tous les programmes indépendants des jeunes de 15-16 ans partout, là, ça joue avec des bâtons de bois, mais la NCAA ou les junior college américains sont encore en bâton d'aluminium. Écoute, je suis pas sûr que ça fait en sorte que c'est moins populaire, là, que ça fait que c'est moins populaire, mais c'est sûr que on est peut-être rendu là à changer cet aspect-là du baseball collégial.
C'est ce que j'ai aimé aussi, c'est que, puis là, je vais t'en donner deux autres, après ça, on va arrêter, parce qu'on pourrait en parler longtemps, c'est que les joueurs au college football et au college basketball, les étudiants sont sur les campus. Et ça, c'est vrai, ça. Regarde, j'en regarde des matchs de la NCAA baseball, puis les étudiants sont pas sur les campus comme le college basketball puis le college football, là.
Tu sais,
ils sont pas dans les
stades. Ben c'est ça. Non, ben écoute, il y a des programmes, effectivement. Il y a des programmes qu'on voit la participation d'étudiants beaucoup. Mais effectivement, on est à quelques années encore je pense pas que le baseball va atteindre la popularité que le basket ou le football, mais tu sais. Il y a des efforts qui sont faits dans certains programmes où on a injecté quand même un certain nombre d'argent, parce que ce que je vois présentement, c'est que plusieurs universités récemment ont tout rénové leurs installations sportives, incluant le baseball, et ça a semblé donner un peu de vie. Fait que je vous dis pas que l'infrastructure est une raison, mais la plupart, tu regardes les stades de football, tu regardes le stade ou l'aréna de basket, puis tu regardes le terrain de baseball, souvent c'est le baseball qui est copié. Là, tu vois qu'il y a une espèce de changement. Les gens, s'ils regardent quelques matchs à la télévision, vont voir qu'il y a des magnifiques stades maintenant parmi des collèges. Puis ça semble vouloir attirer un petit peu plus d'étudiants à travers les campus, mais tu as raison, toutes les raisons que tu mentionnes, ce sont tous des petites raisons à gauche, à droite, qui font qu'à un moment donné, on n'est pas capable d'attirer autant. Là.
Mais moi, c'était un mystère. Puis ça restait un mystère, parce que le baseball est très populaire, pareil. C'est le troisième sport aux États-Unis. Puis de voir que c'est pratiquement l'anonymat, c'est ça qui me... Puis je pense que les Américains m'ont donné quand même pas mal de bonnes réponses. Marc, je vais te l'envoyer, le groupe, parce qu'il y a des anciens des anciens joueurs qui sont là-dedans. J'ai vu Ron Ginn qui est là-dedans des fois, qui vient. Tu as également Larry Sorensen. J'ai vu Al Oliver qui fait des interventions aussi. Fait que c'est pas mal intéressant. Marc, merci beaucoup. Puis au plaisir de se parler.
Avec plaisir. Salut, Danny.
Notre ami Marc.